Eh bien, bonjour à tous. Je suis désolé pour le son de la dernière prédication. On a eu un petit problème technique. Mais voilà, maintenant je pense que tout est arrangé. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'un peu spécial parce que, comme vous voyez, comme vous le savez, depuis quelques semaines, notre communauté a ouvert une page Facebook. Et alors je reçois beaucoup de... Vous avez vu, c'est des milliers de personnes qui viennent voir, qui... Alors il y a beaucoup de gens qui sont croyants, d'autres qui ne sont pas croyants, qui doutent, mais qui sont polis, ou qui croient un peu différemment. Ça, bon, c'est tout à fait normal. Mais il y a des gens qui m'insultent, et il y a des gens qui insultent Dieu surtout. Et ça me fait mal au cœur. Et ce soir, là, aujourd'hui, je vais pas le faire sans arrêt, mais je vais le faire une fois. Et après, je reviendrai plus là-dessus, parce que les gens qui insultent Dieu, je les bloquerai, puis c'est tout. Parce que ça me fait mal au cœur, quand je vois tout ce que Dieu fait, et puis que des ignorants se permettent, ça me fait mal au cœur. Donc aujourd'hui, je voudrais vous lire dans 2 Timothée 3:1, voilà ce qu'il est dit. C'est Paul qui parle, disant « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. » Voilà, c'est clair. Que Dieu bénisse cette parole que je vais vous donner ce soir. Elle n'est pas pour tout le monde, hein. Elle n'est pas pour vous qui êtes des croyants respectueux. Elle est pour une certaine catégorie de personnes, mais enfin, vous pouvez écouter quand même parce que ça peut vous donner des idées pour pouvoir répondre peut-être à certaines personnes insultantes, blasphématrices. Les temps difficiles dont Paul parle sont là, on est en plein dedans. Enfin, il y a toujours eu des temps difficiles, mais à notre époque, c'est vraiment particulièrement difficile. Et nous pouvons nous attendre avec une assurance absolument parfaite à l'accomplissement de tout ce qui a déjà été écrit, ce qui a été annoncé. Il n'y a pas de problème. Quand il dit dans les derniers jours, bon, ben maintenant, si c'est pas aujourd'hui le dernier jour, je sais plus, moi. Jésus est clair, quand la génération qui verra Israël redevenir un pays, eh bien, c'est la génération qui verra son retour. Donc, nous sommes dans les derniers jours, non pas du monde, mais les derniers jours de l'Église sur la terre. Jésus va venir et enlever son épouse, il va la prendre avec lui et le monde sera livré à lui-même pendant une période de 7 ans sous l'autorité de l'impie, de l'antichrist. Nous le savons, nous le disons, ça les fait rire, hein, ça les fait rire, mais je le dis quand même parce que, voilà, il faut que ces choses soient dites. Si elles sont pas dites, eh bien, voilà, les gens pourront dire, mais nous ne savions pas. Maintenant, ben voilà, les gens savent. Parce que de plus en plus, des gens parlent. Malheureusement, il y a aussi des doudingues qui s'amusent à donner des dates ou qui disent des âneries. Il faut trier, hein. C'est vrai que c'est difficile de trouver le bon équilibre. Nous devons lever les yeux avec plus d'assurance que jamais vers Jésus qui revient pour nous enlever, mes frères et sœurs. Le rétablissement de toutes choses est commencé. Il y a d'abord une réforme, la réforme, et puis ensuite maintenant c'est le rétablissement. Et à la fin de ce rétablissement, eh bien ça sera la création d'une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Mais avant cela, donc, il y aura la venue de Jésus sur les nuées du ciel, tel que c'est écrit dans 1 Thessaloniciens. Et voilà, il régnera, nous est-il dit, avec une verge de fer. Et il finira son règne. Il finira par tout détruire. Et, bon ben voilà, moi j'applaudirai parce que c'est épouvantable ce que l'homme a fait de la terre, c'est épouvantable. Donc Dieu use de patience et voilà, bon ben il nous demande d'user de patience nous aussi, nous autres les chrétiens. Et là, il viendra, Fini toutes ces histoires, toutes ces fables qui plaisent tellement aux gens tiédasses, toutes ces religions corrompues, toutes ces philosophies montées comme autant de pièces d'échafaud d'âge branlant. Terminé toutes ces impostures idolâtres fabriquées par des esprits déréglés. Fini toutes ces visions fausses, ces prophéties fausses, erronées, toutes ces choses. Jésus régnera fermement, ça sera clair. Fini tous ces politiciens, exploiteurs du peuple, corrompus, profiteurs, assassins. Fini le règne des finances entre les mains des gens les plus vils de ce monde. Fini, terminé. Mais avant cela, avant que Jésus vienne pour régner, l'Antichrist paraîtra. Et il conduira cette bande d'infâmes dans la plus grande tromperie, se faisant passer pour Dieu. Il arrangera beaucoup de choses. Hein. Il n'y aura plus de faim. F-A-I-M, hein. Les gens n'auront plus faim sur cette terre. Il réglera les problèmes de santé, ce que les hommes politiques pourraient faire aujourd'hui, mais ils ne le font pas parce qu'ils sont corrompus, mais ils pourraient très bien le faire, tous ces lobbies pharmaceutiques, voilà. Mais l'Antichrist, lui, le fera, alors les gens le prendront pour Dieu, parce qu'ils diront, oh, il est bon, il est juste, il est merveilleux et tout, et ils iront même jusqu'à l'adorer. Et il se fera passer pour Dieu, et puis ils tomberont dans le panneau. Mais nous, on sera plus là, hein. L'épouse en aura été enlevée juste avant. Alors vous pensez que actuellement nous vivons dans un monde difficile? Bah attendez de voir quand l'Antichrist sera là comment ça va être, parce que ça va pas être simple. C'est vrai qu'il arrangera beaucoup de choses, mais à quel prix? Déjà maintenant on voit un petit peu, n'est-ce pas, la façon de faire, c'est-à-dire pour ta sécurité on te prive de liberté. Et voilà. Alors ceux qui accusent Dieu aujourd'hui ne se repentiront pas non plus quand le monde va complètement être abandonné à la puissance des ténèbres. Ils se repentiront pas, ils changeront pas. Aujourd'hui, vous insultez Dieu, vous insultez les chrétiens qui vous les traitez de tarés, mais vous êtes des pauvres ignorants, vous ne savez pas qui nous sommes. Vous savez pas qui nous sommes. Nous sommes le sel de la terre. Vous pensez qu'on est prétentieux? Vous savez ce que c'est le sel de la terre? Autrefois, on n'avait pas de frigidaire, on n'avait pas de congélateur et on conservait la viande dans le sel et les aliments en général. Eh bien, nous sommes le sel de la terre, c'est-à-dire nous sommes ce qui empêche une complète putréfaction de tout. Voilà ce que sont les chrétiens. Mais quand Jésus-Christ nous aura enlevé de cette terre, selon ce que l'apôtre nous enseigne dans la lettre aux Thessaloniciens au chapitre 4, ben, il n'y aura plus de sel, plus rien pour empêcher le pourrissement total. Et là, vous allez souffrir. Aujourd'hui, on vous annonce la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et vous vous moquez de nous. Ok, riez, messieurs, riez, mesdames, riez. Mais nous savons une chose que vous ne savez pas. Et je vais vous le dire. C'est que votre sauveur actuel, l'agneau de Dieu, le gentil Jésus, hein, qui dit qu'il faut aimer nos ennemis, etc., ben, il va se transformer en votre juge impitoyable, en un lion redoutable. Il est dit que quand l'agneau se lèvera du trône où il est assis, c'est-à-dire Jésus, eh bien, il deviendra un lion redoutable. Alors vous êtes scandalisé par ce que je vous dis là, vous dites voilà, Dieu est pas juste, il est assis dans le ciel, il fait rien, il nous regarde, il regarde la souffrance et tout, puis en plus maintenant après il va devenir comme un lion. Je vous dis ça par amour, afin que vous échappiez justement à la colère qui vient et qui va s'abattre sur le monde, parce qu'on est à la veille de la veille, vraiment. Vous y croyez pas, je sais que vous y croyez pas, j'ai qu'à lire ce que vous m'écrivez, je vois bien que vous n'y croyez pas. Mais quand ces choses arriveront, ben vous y croirez pas non plus. Ce que vous ferez alors, c'est écrit dans Apocalypse chapitre 16, 8, 11. C'est annoncé ce que vous ferez. Apocalypse 16, 8, 11. Quand le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil et lui fut donné de brûler les hommes par son feu, on comprend maintenant un petit peu pourquoi, comment ça peut arriver, hein. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux. Ils ne changèrent pas d'attitude pour lui rendre gloire. Vous voyez, ne change pas. Le cinquième ange versera sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut plongé dans les ténèbres. Donc l'Antichrist et tout ça. Les hommes se mordaient la langue de douleur et ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Et ils ne se repentirent pas de leurs actes. Vous voyez, les moqueurs d'aujourd'hui seront les moqueurs de demain, ne changeront pas. Vous ne changerez pas. Chiche que vous changiez, chiche que vous vous repentiez, vous ne vous repentirez pas. Vous êtes idolâtre, vous êtes dur, vous serez encore plus dur, plus idolâtre, plus voleur, plus blasphémateur, plus infidèle, plus impur qu'aujourd'hui. Vous l'êtes aujourd'hui, vous le serez encore davantage à ce moment-là. C'est écrit. À moins que vous vous repentiez. Il y en a quelques-uns qui vont se repentir. J'espère que vous êtes de ceux-là. C'est pourquoi je crie. Si vous entendez aujourd'hui, si vous entendez sa voix, repentez-vous. On va lire Hébreux, chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué. Ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre ces générations et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ça, c'était quand les Juifs sont sortis d'Égypte. Ils ont eu des attitudes envers Dieu épouvantables. Ils ont vu des miracles extraordinaires, mais vous en voyez aussi. Il suffit d'aller là où ça se passe. Évidemment, si vous allez dans les boîtes de nuit, ou si vous regardez The Voice tous les samedis soirs, et puis que vous écoutiez les informations sur TF1, et que vous n'allez pas voir où ça se passe, vous n'allez pas aller voir les miracles. Mais des miracles, il y en a des milliers sur Terre. Moi, j'en ai vu des milliers et des milliers. Ils étaient inexcusables, vous l'êtes aussi. Parce que Dieu agit. Vous ne le voyez pas parce que vous regardez dans la mauvaise direction. Vous êtes comme une personne qui a perdu sa montre au bois de Boulogne puis qui va la chercher place la Concorde sous prétexte qu'il y a de la lumière. C'est pourquoi la Bible dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu ». Je continue. « Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui les détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. » Le mot péché, ça signifie erreur. Quand tu commets un péché, tu commets une erreur. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Qui s'est en effet révolté après avoir entendu? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Ainsi nous voyons qu'ils n'ont pas pu entrer à cause de leur incrédulité. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous qui ne croyez pas en Dieu, vous qui vous moquez de Dieu, qui blasphémez, qui dites « Ouais, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces horreurs, gnagnagna », et qui oubliez que vous avez le libre arbitre, que Dieu vous l'a donné par amour pour que vous soyez libre. Il vous a donné un mode d'emploi, comment vivre la Bible, mais vous en moquez. Il y en a un qui m'a écrit « J'ai lu la Bible et j'en conclus que cette histoire n'est pas plus sérieuse que celle du Père Noël. » Ha, ha, ha. Vous savez, personne n'est dupe, hein. Ni Dieu qui sait tout, ni ceux qui vous annoncent la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Je vais être franc avec vous, ça fait maintenant 50 ans que je prêche l'évangile et je vais vous dire. Tout ce que vous pouvez dire contre Dieu, tout ce que vous pouvez dire sur sa soi-disant injustice, tout ce que vous pouvez dire pour défendre votre religion idolâtre, etc., etc. Tout ce que vous pouvez dire contre les serviteurs de Dieu, auxquels Dieu répond et en exaucant leurs prières, tout ce que vous dites là, tout ça ne cache qu'une seule chose, je vais vous le dire, vous aimez votre péché. Vous aimez votre péché. Et vous ne voulez pas arrêter de pratiquer votre péché. Et c'est pourquoi vous cherchez à Dieu tous les défauts, à l'Église tous les défauts, au serviteur de Dieu tous les défauts. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Voilà, vous en êtes là. On n'est pas dupes. Nous les prédicateurs, on n'est pas dupes. On sait bien que c'est rien qu'à cause de ça que vous ne venez pas à Jésus. Ni Dieu, ni ses serviteurs ne sont naïfs. On sait très bien, on sait parfaitement que vous vous cachez derrière des milliers d'arguments qui ont l'air parfois tellement justes pour ne pas venir humblement recevoir le pardon de vos péchés et pour en être délivré parce que vous aimez votre péché. Point barre. Waouh. Dieu vous appelle. Dieu est patient. Comme du temps des Juifs dans le désert à la sortie d'Égypte, il est patient. Mais, un jour, Dieu va dire « c'est assez, j'en ai marre ». Et dans sa colère, il a juré « ils n'entreront pas dans mon repos ». Voilà. Et voilà. « Oh, Michel, mais tu fais quoi là? Tu nous engueules ?» Oui. Non, je vous engueule pas. Je vous avertis. Je vous avertis solennellement parce que vous êtes en danger, vous êtes complètement insouciant. Vous savez ce que c'est le péché de Sodome? La Bible le dit. Sodome vivait dans une insouciante sécurité. Voilà, c'était ça le péché de Sodome. C'était pas l'homosexualité. Bien sûr, il y avait des homosexuels, mais il y en a toujours eu, il y en a toujours. Et puis, mais c'était pas ça le péché de Sodome. Le péché de Sodome, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, c'est qu'il vivait dans une insouciante sécurité. Et il n'aidait pas les pauvres. Parce que quand vous dites, ouais, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de misère. Mais vous faites quoi contre la misère? La misère qui est dans votre propre immeuble, dans votre propre famille. Faites quoi, vous? Vous accusez Dieu? Non, on n'est pas naïf, on n'est pas fou. On sait très bien pourquoi vous ne voulez pas de Dieu. Alors tous vos arguments, vos machins... Vous êtes en danger, vous êtes insouciant, vous vivez dans une insouciante sécurité, surtout ici dans nos pays comme la France, la Suisse, la Belgique, tous ces pays merveilleux, n'est-ce pas? Ça devient difficile quand même, hein? Et puis vous avez pris l'habitude d'entendre et de voir des mauvaises nouvelles à la télévision, dans la presse, alors vous êtes hypnotisé, vous êtes... Vous savez comment vous êtes? Vous êtes un peu comme la grenouille qu'on met dans de l'eau froide ou tiède, et puis on met le feu dessous, puis ça commence à chauffer, puis au bout d'un moment elle est bouillie. Si on mettait la grenouille dans de l'eau bouillante, elle sauterait d'un coup, elle sauterait de la casserole, elle ne resterait pas dedans. Mais elle a pris, elle prend l'habitude que l'eau chauffe, ça l'endort un peu. Et vous êtes endormi par la télévision, par tout ce que vous lisez sur Internet et toutes ces choses-là. C'est terrible, terrible. Et puis ça va pas s'arranger, hein. Ça va pas s'arranger. Vous pensez que oh ça va s'arranger. Bon, en ce moment là-bas, en Russie, en Amérique, puis l'autre Coréen, tout ça. Oui, bon, on a déjà entendu parler des trucs comme ça. Puis ça finit par s'arranger. Ça s'arrangera pas. Ça ne s'arrangera pas. Et voilà. Je me rappelle quand. Quand on vous disait, nous les chrétiens, qu'Israël redeviendrait une nation, parce que la Bible l'annonce depuis 2500 ans, eh ben, ça vous faisait rire. Puis maintenant, ben, c'est une écriture accomplie. Mais comment alors vous vous êtes retourné dans cette histoire? Ben, vous êtes antisémite. Non, 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 vous n'êtes pas antisémite, parce que les sémites, c'est les juifs et les arabes. Vous êtes anti-juif. C'est un esprit qui fait ça. C'est un mauvais esprit qui fait ça. Et vous en êtes victime. Et vous savez même pas que vous êtes victime de ça. Quand on vous annonçait la crise mondiale, ça vous faisait rire. Moi, je me rappelle dans ma famille, quand je parlais de ça, mais les gens riaient. Oh, c'était en Suisse. La crise mondiale en Suisse. Ah, ah, mais Michel, mais qu'est-ce que tu viens nous raconter? Alors, je disais, je montrais dans les Écritures. Mais c'est des bêtises. Il disait pas bêtises, hein, il disait un autre mot. Qui veut dire, voilà, hein. Et il se moquait de moi. Vous riez moi maintenant, hein. Quand on a vu la mondialisation arriver, eh ben, voilà. Elle était là, elle est là, elle est là. Vous êtes tous fichés. Vous êtes tous fichés. Il y a des chrétiens qui ont peur parce qu'ils se disent « Oui, on va nous mettre une puce et puis on sera fichés. » Mais on est déjà tous fichés. En vue de ce gouvernement mondial qui existe déjà dans les grandes lignes, ça se passe, dans les, comme disait Coluche, dans les milieux autorisés où vous n'êtes pas autorisé d'aller. Mais vous en subissez les influences. Vous croyez que c'est Macron qui dirige la France, vous? Vous croyez ça? Vous croyez que c'est le gouvernement qui dirige la France? Mon pauvre. Quand on vous annonçait une recrudescence des catastrophes naturelles, alors là, Michel, mais enfin quand même, qu'est-ce que tu viens nous raconter? Mais t'es un alarmiste! Mais qui c'est qui peut croire des choses pareilles? Mais tout va bien, madame la marquise. Vous vous fichiez de moi comme il faut. Et pas que de moi, de tous les chrétiens qui ont les yeux un peu ouverts. Et aujourd'hui, ben voilà, en plein dedans, qui vous dit, ah, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tout ça. C'est pas la faute de Dieu. Quand on vous disait, il y aura une recrudescence, donc par exemple, les tremblements de terre. Oh, mais il y en a toujours eu. Là, les gens me disent ça encore. Il y en a toujours eu des tremblements de terre. Ouais, et puis maintenant, ben, on sait qu'il y en a parce qu'on est averti par les infos. Avant, on savait pas, mais il y en a toujours eu des tremblements de terre. Michel, t'es bien naïf. Mais ces chrétiens, ce qui peuvent être bêtes. Voilà ce qu'on me dit. Alors, regardons un petit peu les chiffres. Dans les années 1900 à 1989, les tremblements de terre en moyenne étaient de 3,4 sur l'échelle de Richter. Vous avez remarqué, chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, il y a une échelle de Richter qui traîne dans le coin. Moi, je dis qu'on devrait les supprimer, ces échelles de Richter. C'est à cause de ça qu'il y a des tremblements de terre. Oui, moi aussi, j'arrive à être bête. Hein. Bon, donc, dans les années de 1900 à 1989, les tremblements de terre, 3,4. Et puis, il y a eu, pendant ces années-là, pendant ces 89 ans, il y a eu à peu près 4 tremblements de terre importants sur la Terre, ce qui a fait 20 000 morts par an. Oh, c'est terrible. Aujourd'hui, il y a 25 tremblements de terre par an, et rien qu'en Haïti, 200 000 morts. Il y a toujours eu des tremblements de terre. Mais Michel, avec tes prédictions que tu trouves dans la Bible, un vieux bouquin qui a des milliers d'années, que c'était des gens qui étaient des Cro-Magnons, puis voilà. Ah bon? Désolé, les prédictions de Jésus, ça vous fait toujours rire? 200 000 morts chaque année par les tremblements de terre. Mais il n'y a pas de recrudescence des tremblements de terre. Je suis désolé de devoir vous parler ainsi, mais ça me fait mal de voir toutes ces personnes qui insultent Dieu alors qu'elles ne le connaissent pas, qu'elles vivent les yeux fermés alors qu'elles croient qu'elles ont les yeux ouverts. La Bible dit, hein, vous êtes aveugle et vous ne le savez pas. Dieu a tellement fait pour nous, alors que nous méritions simplement d'être abandonnés par lui au fond de l'univers, et puis c'était marre. Tant de rébellions humaines et stupides et dévastatrices, tant de... J'ai un ami prédicateur un jour, il a dit, si j'étais Dieu, votre affaire serait vite réglée. Dieu nous a donné un monde magnifique. et il nous en a donné la gestion par amour. Il se mêle plus de nos affaires. Il nous a juste donné le mode d'emploi, la Bible, quelques lois, et aime ton prochain, ne tue pas, ne commets pas d'adultère, voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à enseigner au sujet de l'omniscience de Dieu. Oui, Dieu savait que nous le trahirions. Dieu le savait avant de nous créer. Et de toutes ces choses, j'en parle depuis des dizaines d'années. Tout ça, c'est sur mon site. Vous avez toutes les prédications, tous les enseignements sont là. Ça a été enregistré. C'est là, vous n'avez qu'à les écouter. Plutôt que de regarder les émissions débiles à la télévision, prenez le temps, chaque soir, vous écoutez une prédication et vous instruisez des choses spirituelles. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont compris mes enseignements, et pas seulement les miens, mais de tous les serviteurs de Dieu avertis, qui ont fait des études. Parce que vous savez, les études de théologie, c'est pas de la rigolade, c'est pas... Et ils vivent maintenant en paix, ces gens-là, ceux qui m'ont compris, ceux qui savent, et ils vivent en paix avec eux-mêmes, avec Dieu, avec les autres et avec la nature. Alors est-ce que je dois redire tout ce que j'ai déjà dit sur par exemple la prédestination? Est-ce que je dois redire? Je pourrais le faire, ça reprendrait encore des heures et des heures pour vous expliquer, mais vous avez tout cela enregistré dans Révélation Bible sur le site. Allez et prenez du temps, celui qui cherche y trouve. Un jour, Jésus a dit ça, celui qui cherche, y trouve. Eh bien, je vous exhorte à chercher, à ne pas rester dans l'ignorance, à ne pas rester bloqué dans votre révolte. Parce que c'est vrai qu'on pourrait, ça paraît juste, la révolte des incrédules et des ignorants, elle paraît juste, parce que c'est vrai que, bon, c'est vrai, comme l'autre disait, si j'étais Dieu, votre affaire serait bien réglée, mais si j'étais Dieu, c'est vrai, je ferais... Et hop, ça y est, plus de problème. Mais c'est pas comme ça l'histoire. Il y a une raison, il y a une histoire. Tout ça, c'est écrit, c'est dit, c'est enseigné. Il faut qu'on sache. Vous avez pris un train qui roule déjà depuis des millions d'années et vous vous permettez de critiquer comme des gamins qui critiqueraient leurs parents qui font des affaires. Mais il faut que vous vous renseigniez. Il faut que vous appreniez. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Dieu a fait ça? Dans quel but il a fait ça? Il a un but, il sait pourquoi. Alors vous allez me dire, oui, mais toute la souffrance, surtout les enfants, mais bien sûr, c'est épouvantable. C'est pourquoi je dis, cette révolte peut être justifiée dans le cœur des ignorants. Maintenant, ceux qui sont croyants souffrent de voir tout ça, mais on sait pourquoi ça arrive. Et on sait aussi que... c'est souvent la faute des gens qui sont révoltés contre Dieu, s'il y a toute cette misère. Si on a la connaissance, on n'est pas révolté, on est simplement profondément attristé de voir tout ça. Mais on sait que ça finira. Un homme m'a dit dernièrement, enfin il m'a écrit, j'ai lu la Bible et c'est aussi crédible que l'histoire du Père Noël. Alors pardonnez-moi monsieur si vous m'écoutez, ça fait 50 ans que je la lis tous les jours, la Bible. Et j'y trouve, comme des millions de personnes, à notre époque et dans tous les siècles, du réconfort, de l'assurance, de l'espérance, de quoi m'instruire. Et vous, rien? Rien? Vous trouvez rien? C'est quand même bizarre, non? Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science rapproche de Dieu. Vous savez, vous avez en bas dans mon site Révélation Bible, vous avez des liens. Allez cliquer dans des liens et allez regarder, c'est un site que je vous recommande, c'est celui de Serge Tarashenko. C'est un savant dans le nucléaire et c'est un chrétien. Et il a des choses extraordinaires à vous dire. Si vous trouvez que mes messages sont un peu blés, un peu niais, allez écouter cet homme qui est un véritable scientifique. Allez écouter, si vous osez. Un un peu de science éloigne de Dieu. Beaucoup de science rapproche de Dieu. Mais en vérité, c'est même pas encore ça qui éloigne de Dieu. Ce qui éloigne les gens de Dieu, c'est l'amour de leurs vices, de leurs péchés. Ils veulent pas de Dieu dans leur vie parce qu'ils savent qu'ils vont devoir abandonner leur égoïsme, leur petit confort matérialiste, leur péché. J'ai un ami qui est dans le show business, qui est très connu, vous le connaissez. Et la première fois qu'il m'a invité chez lui, il me faisait visiter son appartement et il y avait une énorme statue de Bouddha. Et il me dit, ah lui, je l'aime bien. Je dis, ah oui, il a dit des choses extraordinaires, c'est un fait, mais il n'a jamais prétendu être Dieu. Il dit, oui, je sais, mais tu sais pourquoi je l'aime bien? Je dis, non, pourquoi précisément? Alors il me dit, parce que quand je rentre complètement bourré le soir, lui il me fait pas de reproches, alors que ton Jésus, il m'en fait sans arrêt. Tu vois, il était franc, lui, au moins. Jésus, c'est pas qu'il vous fait des reproches, mais il vous avertit. Faut pas détruire votre vie, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de précieux. Faut pas détruire la vie de votre conjoint, de vos enfants, il faut s'occuper, il faut prendre soin de la vie des gens qui vous entourent, de votre prochain, comme dit la Bible, et etc., etc., etc. Bon. Mais ils veulent pas. Alors, beaucoup de gens ne veulent pas parce qu'ils veulent, ils veulent pas de Dieu parce qu'ils veulent pas abandonner leur péché, leur égoïsme et toutes ces choses-là. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, verset 7, Dieu, dans sa patience, dit encore qu'il fixe un nouveau jour, aujourd'hui. Il dit ça en reprenant le texte hébreu, en reprenant un texte qui a été écrit il y a longtemps par David, une parole déjà citée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors j'en supplie, prenez au sérieux ce que je vous dis. Empressez-vous d'entrer dans le repos que Dieu veut donner à votre âme, à votre corps, à votre esprit, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance que celui qu'Israël a donné dans le désert en se rebellant constamment. Vous avez tous vu les 10 commandements. Et ben voilà. Dieu juge vos sentiments. Il juge les pensées de votre cœur. Alors, je vous en supplie, soyez humbles, soyez repentants et faites la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Jésus, je te prie de tout mon cœur que les personnes qui m'ont entendu et qui sont concernées par ce que j'ai dit se repentent. Pas regrettent d'avoir péché, mais se repentent de t'avoir offensé. Je te prie, mon Dieu, s'ils se repentent, d'éclairer leur cœur, d'éclairer leur intelligence pour qu'ils comprennent que tu es un grand et bon Dieu, que tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux qu'ils se repentent. Seigneur, je te prie de tout mon cœur de les aider à venir à toi, tout simplement, pas à une religion, mais à toi. Avec un cœur bien disposé, avec de bonnes intentions. Père, je te demande cela dans le nom de ton Fils bien-aimé, Jésus. Amen. Voilà, j'ai terminé pour ce soir. Allez, dimanche, ça sera autre chose, on passera à autre chose. Et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et puis, pour vous qui êtes déjà des croyants, excusez-moi cette longue prédication qui ne vous était pas vraiment concernée. Que Dieu vous bénisse, au revoir.